Et cette nouvelle année où tout semble déjà effacé, vous savez, où un mort engomme déjà un autre, Bernard de Fallois, Paulo Tchaïkovski Lawrence, Aaron Appelfeld, où chaque vœu nouveau semble nous inciter à repartir de zéro et à oublier, forcément oublier, je tombe sur des tubes à la radio, des vieilles chansons qui grésillent dans le désordre, dans les élucubrations d'Antoine, un étrange mémo, on verrait des avions dans les couloirs du métro, et Johnny Hallyday en cage à Medrano. Et puis, comme si c'était passé le mot, voilà que surgit un autre Johnny, sur d'autres ondes, qui fait mal et qui fait rire celui-là, qui t'envoie au ciel, zoom, dans la voix de Jeanne Moreau. Et puis Johnny Jane qui traîne ses baskets et ses yeux candides dans les No Man's Land et les lieux sordides. Traînait, qui chantait bizarrement, Johnny, Johnny, tu me manques, alors je me planque pour penser à toi. Ce soir, j'ai la nostalgie de cette magie qui ne revient pas. Johnny qui revient comme un refrain, revient Johnny, reviens, viens, ah reviens vers moi, parce que Johnny c'est toujours celui qui revient, jusque dans cette chanson où le soleil brille, 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 qui dit dans le refrain tu reviendras Johnny, et je sens comme un vide, disait Bachung dans Gabi, remets-moi Johnny Kid, et à nouveau Johnny Jane, j'ai dû faire le tour de la radio, efface tout ça, recommence liquide, efface de ta mémoire ces brefs instants torrides, mes mots pour cette nouvelle année. Ne pas oublier.
Boomerang, Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang que retiendra à tout prix mon invité d'aujourd'hui. Son nouveau livre, Chansons de la ville silencieuse, apparu hier. L'histoire d'une fille de chanteur à succès qui part sur les traces du fantôme de son père. Bonjour Olivier Adam.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Avant toute chose, de 2017, qu'est-ce que vous n'oublierez pas, vous ?
Oh bon, on parlait de la litanie des morts, peut-être Jean Rochefort, parce que c'est lié à l'enfance, quoi. C'est les films du mardi soir. Et puis j'avais un manche-disque orange, dans lequel j'avais un disque de Disney, de l'histoire de Rock Seruki. Et c'était lui qui faisait le narrateur. Je me souviens toujours de sa voix si particulière quand il disait « Ouh, Rox !» Et puis c'est un truc que je partage aussi avec mes enfants qui le connaissent par une intervention dans un disque de Dionysos, dans La mécanique du cœur, ou par un truc de Vincent Delerme qui s'appelle « Léonard, une sensibilité de gauche », qui est un livre 10 pour enfants que mon fils écoute en boucle depuis des années. Alors Jean Rochefort, c'est un truc... De l'enfance et de l'enfance de mes enfants en même temps, c'est partagé.
C'est intéressant que vous parliez d'une voix, parce qu'il s'agit bien ici de voix. Je parlais de Johnny, parce que sa disparition n'est pas sans lien avec votre livre que j'ai lu, figurez-vous, juste après la disparition de Johnny. Et c'est une expérience assez singulière. Qu'est-ce qui se passe quand un chanteur de cette ampleur disparaît ?
D'abord, il emporte avec lui, évidemment, nos propres souvenirs, parce que c'est le... Cette capacité incroyable de la chanson populaire, de la chanson, en tout cas des chansons qu'on aime, qu'elles soient populaires ou non, d'être liée très précisément à beaucoup d'instants de nos vies. Et puis, même si c'était un chanteur, par exemple, que moi j'écoutais pas beaucoup, évidemment, au moment de sa mort, je me suis aperçu d'à quel point il m'avait traversé sans même que je le sache.
Et de résonance avec votre propre roman.
Alors oui, parce que dans le personnage du père de la narratrice, qui est un chanteur, qui est la figure du chanteur, j'ai voulu concentrer comme ça toutes les mythologies du chanteur et les ouvrir aussi, c'est-à-dire mes petites mythologies à moi, et puis ouvrir à celles des autres, à celles des lecteurs. Alors évidemment, le côté les frasques, la vie d'excès, le côté star, quoi, star,
idole,
monstre sacré, le côté idole, ça, j'ai pensé évidemment à lui pour bâtir ce personnage-là au milieu de plein d'autres, quoi.
Et il s'agit surtout de disparition, Olivier Adam, et la disparition des êtres qui nous sont chers, c'est l'un de vos thèmes de prédilection. Je pense autant à Je vais bien, ne t'en fais pas, qu'au cœur régulier, ou encore au vent contraire. Qu'est-ce qu'il y a de si romanesque dans l'idée de la perte et du deuil pour vous?
Il y a l'enquête. S'il y a la perte, il y a une recherche. Il y a quelque chose de jamais résolu. Une enquête jamais résolue. Ce qui m'intéresse souvent sont des deuils ou des pertes de vue. Comment dire? Qui provoque une forme de déni. Voilà. Par exemple, là, dans le livre, ce chanteur est réputé mort, mais c'est un deuil sans sépulture, un deuil sans cadavre. Il a laissé ses bottes sur le bord du fleuve, une voiture où était en vrac des bouteilles d'alcool et des plaquettes de médicaments qu'il aurait sans doute pris pour suicider. La police a conclu au suicide. Mais pour sa fille, et peut-être pour ses fans, même si ça fait 10 ans qu'il avait tout arrêté, il reste comme ça l'idée de la possibilité d'un fantôme. Et la possibilité d'un fantôme, je trouve ça très, très romanesque. Il y a quelque chose de presque de modianesque dans cette idée d'aller convoquer les visages du passé et de créer une espèce de parallèle entre une déambulation géographique et une déambulation dans la mémoire et les souvenirs.
Écrire, ce serait créer des fantômes, justement.
Ça serait enquêter, ça serait traquer les fantômes. Ouais.
Il se trouve que ce nouveau roman, Chanson de la ville silencieuse, il est né de la rencontre avec un fantôme que vous avez rencontré à Lisbonne. Et faut peut-être nous raconter.
J'étais à Lisbonne avec ma famille et on allait dîner régulièrement dans un restaurant argentin en surplomb du Barrio Alto. Et plusieurs soirs d'affilée, il y a eu l'apparition comme ça d'un chanteur des rues, dandy, vieillissant, veste de velours, chemise de soie, petit foulard, chapeau, Santiago, très rock'n'roll cowboy, délavé. Lessivé, qui chantait des bossas avec une voix un peu rocailleuse, et il avait ses yeux clairs et ses cheveux blonds, un mi-long et ce nez d'aigle un peu qui faisait penser vraiment à Nino Ferrer. Et le sosie Nino Ferrer, quoi, voilà. Et avec mes enfants et ma compagne, on partage une espèce de culte pour la figure de Nino, et on s'est mis à rêver comme ça. C'était il y a 7 ans, on s'est mis à rêver, et si en fait il n'était pas mort, s'il n'était pas suicidé à 60 ans dans un champ de blé, s'il avait fait semblant, et puis ça s'est mêlé à une espèce de mythologie, quoi, du monde du rock, les chanteurs qui seraient pas morts, qui se planqueraient, et si lui qui était si rétif, hein, l'industrie du disque, au cirque, aux tournées, qu'il avait vomi, longueur d'interview, qui s'était retiré depuis longtemps déjà dans sa maison à faire sa musique tout seul, avait été au bout de ça, quoi. Il était devenu un chanteur des rues qui chante juste pour les passants, comme ça, gratuitement.
Vous savez ce qui est merveilleux avec les spectres, Olivier ? C'est que parfois il suffit de prononcer leur nom pour qu'ils se manifestent.
Je ne veux rien dire, ni même dans mes chansons, ni dans mes textes. C'est pas que je veuille exprimer un message, je dis simplement ce que je ressens. Et c'est toujours sous une impulsion, sous une réaction très, très exacerbée, et en général sentimentale, que j'écris ou que je peins ou que je compose. Puis par ailleurs, je trouve mes textes tellement différents de ce qu'on écrit en général aujourd'hui, que je suis quand même amené souvent à douter et à me poser la question, est-ce que c'est moi qui me trompe ou est-ce que c'est le reste du monde, quoi.
La voix de Nino Ferrer en 1994, qu'est-ce que vous entendez ici? L'artiste qui doute? L'artiste incompris?
Oui, il doutait tellement qu'il doutait même d'être incompris. C'est-à-dire qu'un jour, il expliquait qu'il n'était aimé que pour ses chansons un peu potaches et ignoré pour ses grandes chansons qu'il gravait sur des disques que pas grand monde n'écoutait. Le lendemain, il expliquait qu'il était très très fier d'être aimé pour ses chansons potaches. En tout cas, on sentait quelqu'un en perpétuel mouvement intérieur, en perpétuel questionnement, en perpétuel... presque souffrance de savoir est-ce qu'il était aimé pour les bonnes raisons. Il y a une interview où il dit que, ok, il chante, ça lui rapporte de l'argent de chanter des chansons, mais il voudrait vraiment que cet argent soit propre. Que ses chansons soient d'une telle sincérité que, voilà.
Je le disais tout à l'heure, l'histoire, c'est celle d'une jeune femme qui part sur les traces du fantôme de son père, pourtant déclaré mort, un père musicien, superstar, qui n'a jamais cessé de fuir et qui, après l'échec commercial d'un de ses disques, s'est retiré dans sa maison de campagne près de Valence pour y vivre comme un ermite. Quel luxe est-ce que c'est pour vous, la solitude, l'isolement ?
Pour moi, c'est plutôt un non-choix, je dirais, une nature. Je pense qu'on... Et j'imagine que c'est le cas de ce personnage-là aussi, c'est-à-dire qu'on a une disposition intérieure qui, soit par peur, panique de l'autre, soit par
recentrement
sur soi, nous fait avoir une disposition à la fuite.
Un désir si radical de fuite, ouais. C'est quelque chose quand même.
Ouais, mais dans son cas, ce qui fuit aussi, c'est ce qu'il appelle le cirque, quoi. C'est-à-dire le méga barnum de la vie de chanteur de rock en tournée, en interview, etc.
C'est dans une démarche similaire que vous aviez souhaité quitter Paris pour la Bretagne, vous?
Oh non, parce que moi, d'abord, j'étais pas dans cette situation de surmédiatisation avec des paparazzis ou des fans qui me traquent.
Mais il peut y
et
avoir
puis
ce
la Bretagne,
bruit.
C'est pas si isolé que ça.
Il peut y avoir ce bruit quand même.
Oui, oui, mais en tout cas, cette espèce d'hésitation permanente entre se retirer et être au centre, c'est quelque chose qui définit beaucoup d'entre nous et moi que j'ai pas résolu, voilà.
Oui, c'est vrai.
Maintenant que je suis à Paris, je me demande ce que je fous à Paris et si j'ai envie de me planquer.
Et quand
je me planquais, je me sentais loin de tout et j'avais envie de revenir, quoi.
Et c'est un thème qui traverse votre œuvre, Olivier Adam. C'est comme si l'écriture ne parvenait jamais à vous libérer peut-être de vos obsessions, de cette obsession?
L'écriture, c'est, je crois qu'on creuse sans fin le même obsession pour essayer de la comprendre, mais je pense que c'est en vain, mais ce qui compte, c'est que ça produit, quoi. C'est que ça produit des objets, c'est que ça produit des livres, c'est que ça produit peut-être, j'espère, un peu de beauté, quoi. Voilà, c'est ce qu'on peut, ou de vérité, selon les livres et selon les cas.
Celle qui touche parfois à la beauté et à la vérité dans cette émission, sans doute, la connaissez-vous, Olivier? Nous, en tout cas, on la connaît. C'est la culture et son actualité obsédante et radoteuse. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 4 janvier?
Lilo, lo ti arti l'azmi, shirishima zo, ilmase moredderach.
Jeudi noir pour la littérature, on vient d'apprendre à l'instant la disparition de l'écrivain israélien Aaron Appelfeld, décédé dans la nuit à l'âge de 85 ans. Figure incontournable des lettres israéliennes, survivant de la Shoah, il était le chantre d'une littérature hantée par les voix et les fantômes des disparus et des victimes du nazisme, auteur d'une quarantaine d'ouvrages. Il avait notamment signé « Histoire d'une vie », son autobiographie saluée d'un prix Médicis étranger en 2004.
I mean, you know, we all like looking sexy, but it doesn't mean we want to f*** you.
Comment est votre Blanchett? Elle est ravie, sans aucun doute. L'actrice australienne Kate Blanchett, fer de lance de la lutte contre le harcèlement sexuel, a été choisie pour présider le jury du 71e Festival de Cannes. Elle sera une présidente engagée, promettent les organisateurs, qui par ce choix affichent leur soutien au combat contre le harcèlement dans la profession. Kate Blanchett sera la 12e femme à occuper cette fonction depuis la création du festival en 1946.
Ce que je recherche dans un texte, dans un livre, quel qu'il soit, poème ou roman, ou autre chose encore, indéterminé, c'est ce son juste qu'on peut assimiler à la vérité.
La douleur dans l'édition après l'annonce hier de la disparition de Bernard de Fallois, éditeur de Proust et de Pagnol. On vient d'apprendre la mort accidentelle de Paul Otchakowski-Lawrence, créateur de la maison d'édition POL en 1983. Exigeant, curieux, audacieux, POL avait notamment publié La vie mode d'emploi de Georges Perec, La douleur de Marguerite Duras et plus récemment Emmanuel Carrère, Marie Dariussec ou Atik Raimi, lauréat du Goncourt en 2008.
Le RAID, l'élite de la police, des super agents surentraînés. Leur devise, servir sans faillir.
Red dingue du ciné français. Alors que la France enregistre la fréquentation en salle la plus élevée d'Europe cette année, les films tricolores sont aussi à la fête. 16 d'entre eux ont passé le cap du million d'entrées en 2017. Et c'est Red dingue de Danny Boone qui squatte la première marche du podium avec 4,5 millions de spectateurs, talonné par Valérian de Luc Besson et Alibi.com de Philippe Lachaud. Cocorico. Olivier Adam, invité de Boomerang ce matin, un mot peut-être, sinon sur Paul Otchakowski-Lawrence, du moins sur le métier d'éditeur. Comment est-ce que vous l'appréhendez, vous, en tant qu'auteur?
En un sens, Paul Otchakowski-Lawrence était peut-être la meilleure représentation de la manière dont on peut l'envisager, hein, c'est-à-dire vraiment un défricheur, un découvreur, mais quelqu'un qui accompagnait ses auteurs au long cours et avec des arguments et des ambitions purement artistiques, sans souci du marché. À tel point qu'il publiait de la poésie, ce qui est, c'est vous dire.
Votre travail, il est indissociable de celui de votre éditrice?
Oui, c'est un compagnonnage absolument indispensable. Moi, j'ai besoin d'avoir cet interlocuteur permanent sur le fond, quoi, sur la direction que je prends, sur les livres que j'écris, ce qu'ils disent, ce qu'ils valent peut-être, et sur vers quoi je m'achemine. Sans ce dialogue-là, je serais un peu perdu, à la fois entre les textes et puis à l'intérieur d'un texte, parce que quand on a fini un texte, franchement, on n'a qu'une envie, c'est de s'en débarrasser, et on est prêt à toutes les facilités, hein, à se relire en se disant que wow, ça va, c'est pas si mal, et il faut aussi avoir quelqu'un qui est à l'intérieur même du texte, un lecteur ou une lectrice qui vous fait voir ce que vous devriez voir vous-même si vous n'étiez pas si pressé.
Alors c'est intéressant parce que dans votre nouveau livre, Chansons de la ville silencieuse, qui vient de paraître, on le disait, on croise un musicien qui ne compose plus que pour lui et plus du tout pour le public. Est-ce que ça a un sens, composer ou écrire, si ce n'est pas pour être lu?
Je ne sais pas, c'est-à-dire que évidemment à travers lui, je travaille mes propres contradictions, mes propres obsessions, c'est-à-dire que j'explique à longueur d'interview que j'écris sans jamais penser au lecteur, en pensant qu'au livre sinon parfait, en tout cas au livre idéal que moi j'aimerais composer. Et puis bien sûr, quand le livre sort, s'il n'y a pas de lecteur en face, je suis complètement déprimé. J'explique que je me fous de la critique et le moindre mot de travers dans une critique me fout à terre pendant 10 ans. Donc cette dichotomie entre l'idée d'écrire vraiment pour soi et que ce geste devrait suffire, et la part d'égocentrisme ou de narcissisme qu'il y a dans le fait de vouloir forcément le faire savoir, le partager, c'est quelque chose de non résolu. Mais c'est un moteur. Moi je pense que j'ai jamais pensé à écrire sans avoir l'ambition d'être publié et que le livre circule. Donc je pense qu'il y a sûrement un truc chez moi de fragilité qui fait que j'ai envie qu'à travers mes livres, on me connaisse ou on m'aime.
Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire au début, Olivier Adam?
Ce qui m'a poussé à écrire, c'est qu'à un moment donné, quand j'ai commencé à écrire des chansons d'ailleurs, et des poèmes, je me suis rendu compte que j'avais un accès au monde que je n'avais pas avant. C'est-à-dire, c'est comme si tout à coup j'avais été myope et que je chaussais des lunettes et que je regardais les autres en leur disant « Ah bon, vous voyez comme ça, vous touchez le monde comme ça ». Et je me suis rendu compte que c'était une espèce d'handicap, quoi, que j'avais, qui était que je suis pas capable d'être au monde pleinement sans, à un moment donné, passer par le prisme de l'écriture, quoi.
Ça a été une façon de se réinventer par la même occasion?
Aussi, bah, bien sûr. De son, c'est, comme disait Flaubert, c'est vivre mille vies, hein. Moi, j'ai jamais pratiqué l'autobiographie, contrairement à ce qu'on croit parfois. J'ai fait mine de la pratiquer. J'ai donné des indices comme quoi je la pratiquais. Donc, j'ai passé mon vie à créer des avatars masculins, féminins, qui me ressemblent plus ou moins, qui me ressemblent pas du tout. Et je m'envoie à la recherche de fantômes à travers le monde.
Alors, si vous deviez vous réinventer sous mes yeux ou sous mes oreilles ce matin, qui choisiriez-vous d'être?
Un chanteur de rock.
C'est sûr.
C'est sûrement ce qui est à l'origine de ce livre. Alors, je suis un musicien raté, quoi.
Je vous demandais de faire la preuve d'un petit peu de plus d'imagination, Olivier. Si vous étiez devenu musicien, quel musicien est-ce que vous seriez? Quel instrument, d'abord?
Si vous voyez, mon instrument, c'est le piano, parce que je pratique le piano, mais évidemment, je voudrais avoir une guitare, quoi, hein, dont je suis absolument incapable de jouer.
Quelle coupe de cheveux, très important?
J'aimerais bien quand même sortir un peu de moi, quoi, hein, donc être un chanteur un peu, pas un chanteur discret et timide, quoi, hein, donc je sais pas, un peu violet des derniers temps, là, vous voyez, un peu dandy.
Avec une coupe de cheveux un peu longue, donc du coup, quel style musical?
Ce qu'on dirait, je sais pas, de la playlist France Inter, en gros.
Quel rapport aux drogues? Oui ou non?
L'alcool, c'est bien.
L'alcool. C'est bien. Au sexe?
Au sexe, c'est très bien.
Aux médias?
Je pense que je garderai, mais je sais plus si on peut se le permettre. Moi, je suis fasciné par ces sales gosses des médias, quoi. Mais j'ai l'impression que il y a quelque chose de plus hygiéniste, quelque chose avec les réseaux sociaux et tout ça. J'ai l'impression que ça dérape moins, quoi. Les derniers qui ont un peu joué avec ça, c'est peut-être été Murat, un moment donné Biolay, tout ça. Mais on a senti que le retour de bâton était fort. Je sais pas si on peut vraiment faire comme faisait Nino Ferrer ou Gainsbourg ou quoi, et déraper un peu.
Quel surnom, quel pseudonyme est-ce qu'on pourrait vous donner?
Quel pseudo? J'en sais rien.
Olivier Adam.
Je crois que je garderai mon nom. C'est pas très rock, mais c'est pas grave.
Quel modèle? Absolu.
Absolu. Leonard Cohen, on va dire.
Je pensais que vous me diriez Jeff Buckley.
Leonard Cohen, Jeff Buckley, alléluia.
Oui. Là, vous me tendez une perche, mais je vais en saisir une autre. Parce que vous citez, en fait, Jeff Buckley. Dans les notes de votre roman, Jeff Buckley, qui reprenait sur son album Grace, précisément en 1994, ce si beau standard de 1950 qu'est Lilac Wine. Vous êtes sur France Inter avec Olivier Adam. Vous écoutez Boomerang.
I lost myself on a cool, damp night. I gave myself in that misty light. Was hypnotized by a strange delight under a lilac tree. I made wine from the lilac tree. Put my heart in its recipe. Makes me see what I want to see and be what I want to be. When I think more than I want to think, I do things I never should do.
I drink much more than I ought to drink because it brings me back you. Lilac wine is sweet and heady, like my love. Lilac wine. See clearly, isn't that she coming to me nearly here? Lilac wine, I feel unready for my love. Feel unready for my love.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
En vrai, malgré ses yeux d'un bleu assez saisissant, il a quelque chose de ténébreux. Hein. Quelque part entre le pêcheur breton taiseux, le juge impassible et humaniste, l'aventurier opiniâtre et héroïque, boucle blonde, façon angelot du plafond de la chapelle Sixtine, visage taillé à la serpe, charpenté comme un viking, petit pull noir, Olivier Adam, invité de Boomerang ce matin pour Chanson de la ville silencieuse, votre héroïne, on le disait, la fille d'un musicien célèbre, et il se trouve qu'elle est éditrice, et elle lit des manuscrits à longueur de journée. Olivier, pourquoi avoir choisi de lui faire occuper cette profession?
C'est la fille de son père, quoi. Donc elle choisit un peu ce qu'elle prend de lui et ce qu'elle ne prend pas. Elle prend ce qu'elle peut aussi, parce que elle a vécu dans l'ombre d'un mystère sur pattes, d'un mec très fuyant qui s'occupait jamais vraiment d'elle, mais qui l'aimait vraiment et qu'elle aimait beaucoup. Et donc elle a grandi dans le culte des textes. Et mais elle se met pas en avant, quoi. Voilà.
Elle dit précisément, en relisant le manuscrit d'un jeune auteur, parfois je voudrais que tout s'arrête ici, une fois le livre fabriqué, que l'écriture se suffise, même si ça n'a pas de sens. Comment vous l'entendez cette phrase, vous?
On en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que parfois on voudrait que l'acte lui-même, que de création, soit la fin de la chose, qu'on se heurte pas au marché, à la question de savoir si ça va être lu, pas lu, vendu, pas vendu. C'est une espèce de vision radicalement idéaliste de l'art pour l'art, quoi.
Vous vous souvenez de la première interview que vous avez donnée, vous?
Ah oui, oui, c'était, je me souviens.
C'était quoi?
Oui, non, c'est la première interview, c'était Philippe Di Folco qui m'interviewait au Café de Flore pour France Culture. Et j'avais jamais mis les pieds de ma vie au Café de Flore. Et j'avais commencé l'interview de manière un peu mauvaise, parce que je m'étais marré du fait du cliché.
Vous étiez en train de devenir un écrivain.
Bah oui, et ça n'avait pas fait une idée, bah quoi, c'est un café, voilà.
Et quel regard, et c'est surtout ça qui est intéressant, quel regard est-ce que vous portez sur celui que vous étiez alors?
J'étais très rétif, très méfiant, à la fois très désireux qu'on me laisse entrer dans ce monde de la littérature et très critique et très voilà, très méprisant d'une certaine manière envers ce que je supposais un monde d'entre-soi, de snobisme, de passe-droit, un monde d'héritiers. Voilà, mais c'était une agressivité, je crois, qui était liée au fait que je me sentais très très en position d'imposture. Et le côté imposteur, ça, le sentiment de l'imposture. Ce qui rejoint d'ailleurs un peu, sans doute, mon personnage, hein, qui a un problème avec son succès, qui est peut-être lié à une espèce de mélancolie du transfuge, comme ça, l'idée de...
Ça ne vous a jamais quitté, ça
pas, Non. Enfin, maintenant, je peux rentrer dans des endroits sans m'y sentir totalement espionné, scruté, étranger et pas à ma place, quand même. J'ai un peu grandi.
Olivier Adam, ça me fait penser, vous en doutez, à cette scène où votre héroïne accompagne l'auteur dont elle s'occupe pour une interview à la Maison de la Radio. Je me demande bien d'ailleurs de quelle émission il s'agit. Une émission après la matinale d'une grande chaîne, après un humoriste. En tout cas, voilà ce que lui inspirent les propos de son protégé. Depuis mon enfance, j'ai rencontré tellement d'artistes, de chanteurs, de comédiens, puis d'écrivains. Et je les ai toujours trouvés en deçà de leur musique, de leurs films, de leurs livres. Parfois, ce fut le contraire. Mais je ne devrais pas être surprise par cette absence de correspondance. Je repense aux interviews que donnait mon père, sa façon de toujours éluder, de distribuer les bons mots et les provocations, d'être si pudique sous la carapace. Jamais il ne parlait de lui, mais de sa musique, des autres musiciens, de littérature, de peinture, de poésie, de l'industrie du disque, des médias. J'ai souvent lu qu'il s'agissait là d'une volonté farouche de ne pas se livrer. Je crois surtout que mon père était persuadé d'être décevant en dehors de sa musique, persuadé qu'un artiste ne peut que desservir son art, ce qu'il a de meilleur à donner, ce qui est d'une certaine manière au-dessus de lui-même. Qu'est-ce que vous avez l'impression de donner, vous, Olivier ?
J'ai l'impression que la part de moi qui écrit, c'est la meilleure part de moi-même. Alors, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est celle-là qui est à l'œuvre. C'est pas moi qui écris, si vous voulez. C'est une espèce de... C'est quelqu'un à l'intérieur de moi qui est la version la plus haute... mais auquel je ne pourrais jamais rejoindre. D'ailleurs, c'est, je crois, l'un des drames du père de la narratrice, c'est que il voudrait être en permanence à la hauteur de celui qui en lui écrit les chansons. Et forcément, il est faillible et pas si élevé que ça en permanence, quoi.
Je vous ai demandé, Olivier, pour terminer cette émission, de venir accompagner avec un texte de votre choix. Je pensais que vous alliez me lire des paroles de chansons, mais je crois que vous avez changé.
Au début, je voulais lire des choses de Vincent Delerme, parce que le livre est un peu né de son dernier album, parce que la narratrice a surgi d'une de ses chansons qui s'appelle Danser sur la table. Et puis, en venant ici, j'ai appris la mort de Paulo Zocchi Laurens. J'ai attrapé au vol un livre, alors pas de lui, parce que, comme tout éditeur, il est derrière les mots des autres, mais d'un de ceux qu'il publiait, et il avait la folie de publier de la poésie et des textes quasiment de recherche. Alors, on va faire un peu de recherche ce matin. Alors, c'est pas très gai, mais la mort, c'est jamais très gai. C'est Christophe Tarkos, c'est les premières lignes de Anachronisme. Un parc, un hiver, un seul hiver, une masse de brouillard, un seul ciel bas. Nous allons passer un hiver long, une seule masse d'un seul hiver. Du brouillard et un ciel bas, des nuages, une durée, la durée d'un seul hiver, une masse d'un hiver, une masse grise de nuages bas, de brouillard, de froid qui dure, qui continue, qui ne s'arrête pas, qui forme une masse lourde, une seule masse d'un seul hiver qui ne finit pas. Cela ne dure qu'un hiver, mais l'hiver dure. Il pleut, la possibilité de se modifier, de faire en sorte que les mécanismes de conscience se soient modifiés, qu'il y ait une modification de soi. Il y a le parc. Il y a le vitre et les ondes. Les ondes passent à travers les vitres et le parc. Un parc où l'on rencontre quelqu'un peut-être, si ça se trouve. Cela peut se passer dans le parc ou, si l'on arrive à sortir du parc, alors dehors. En dehors du parc, cela peut se produire. Sans parler des rues, des boulevards, des parcs, des ruelles, d'une saison qui ne finit pas, d'une route, au bord de l'océan sans route, sans boulevard, sans parc, à travers la pluie. Un parc, un hiver. Un parc nu. Les arbres des feuillages n'ont pas de feuilles, sont noirs et filandreux, sont des broussailles noires, inextricables, enchevêtrées au-dessus du ciel, uniformément gris-blanc. Le parc est vide, le ciel et le sol sont sable, uniformément. Les enfants ne jouent plus, il n'y a aucun passant dans les allées, le parc ne laisse pas de traces, les broussailles noires grisaillent les allées. Un parc, un hiver.
C'est pas gay, mais ça peut être beau. la poésie.
Que ce soit beau. Si c'est beau, c'est jamais triste.
De Tarkos, publié par Paul Tchaïkovski. Laurence, et lu par Olivier Adam dans Boomerang. Évidemment, merci infiniment, Olivier, d'être venu faire un tour dans cette émission.
Merci de m'avoir reçu.
Chanson de la ville silencieuse, publiée chez Flammarion. Ça vous donnera envie, à coup sûr, de vous enfermer chez vous un jour de pluie pour écouter vos vieux disques emmitouflés dans un plaid en patchwork rapiécé. Ou pour écouter, tiens, qui sait, Sonia De Villard et son instant aime les médias, qu'on retrouve juste après ça.